Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. C'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Et aujourd'hui, on vous propose de vous faire écouter le podcast, de Démocratie. Démocratie que nous avions invité à deux reprises notre émission. Et donc nous allons écouter une discussion sur le thème la psy du turfu, c'est-à-dire quelle sera, comment peut-on imaginer la psy en général, la psychiatrie ou la psy cothérapie ou je ne sais quoi, eh bien dans l'avenir, dans le futur, est-ce que ce sera un peu moins bête que en ce moment, voilà, c'est des questions comme celle-là qui vont être soulevées dans ce podcast que nous vous proposons d'écouter maintenant sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste.
Hey FBI, I am the sky. Who are you? Hey police, my name is Chris. Who are you that I should be mindful of?
Computer. You win every year.
X29.
You know him, you know her, Antonia.
Salut, c'est Max, là il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire. Non, vous vous trompez pas, nous sommes bien le dimanche 29 décembre 2024. Aujourd'hui, il devrait y avoir une fumée dans le poste en direct.
Alors, petite erreur, là, je crois qu'il y a une... On s'est un peu trompé. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais on va arranger ça tout de suite.
Je bossais sur un programme enregistré et musical qui, semble-t-il, doit...
Alors, bon, étrange... Un petit salut à Max au passage, il y a de la fumée dans le poste.
Démocratie.
Ouais.
Qui nous a fait l'honneur de venir au port du midi.
Ça, c'était la présidente. Hein. Ça commence.
Ça commence, ouais. Bon, on a la présidente qu'on mérite.
On va commencer par faire un tour de table.
Alors, bonsoir Anna, Démocratie, trésorière de Démocratie et puis usagère psy. Voilà, je te passe le micro, Antoine.
Ouais, j'en ai un, c'est bon.
Et c'est bon. Tu veux pas du mien?
Moi, c'est Antoine, et Démocratie aussi, ministre des affiches, des complots et des intrigues à Démocratie. Et je suis à la fois ouvrier du soin et aussi fou.
Lou,
démocratie aussi. Moi, rien de spécial par la folie. Plus institutionnalisé depuis longtemps et avec plein d'idées sur ce qu'on a à faire pour améliorer les choses. Voilà.
Fatia, tu t'es pas présentée. Hein.
Fatia.
Non, t'arrêtes de faire la gamine, tu te présentes.
Bonsoir. Non, on va être sérieux. Donc Fatia, de démocratie, présidente, impératrice première, reine des...
Notre chef, notre lumière, notre guide.
Notre guide spirituel.
Et son premier podcast. C'est un grand moment d'émotion pour elle, je pense.
Non, mais je déteste ça.
Non. Merci à toi, Fatia, d'être présente.
Merci.
Et moi, Enéa, présentatrice de l'émission. Donc, je vais commencer par la première question. Pourquoi parler du futur de la psychiatrie ?
Parce qu'on est, on sera fous dans le futur encore.
Bah là, vu comment la société est partie, il y aura de plus en plus de fous et moins en moins de soins. Alors, je sais pas, moi je pense l'autodétermination et l'autogestion de la psy, il va falloir qu'on fasse ça par nous-mêmes peut-être, je sais pas. Qu'on fuit les hôpitaux, qu'on fuit les gemmes, qu'on fuit tout et qu'on construise nos trucs. Non, je vais un peu loin. Non, je sais pas. Pour revenir à un truc un peu plus basique. Bah déjà, comment on fait avec la psy actuelle où tout est basé sur les médicaments et rien n'est basé sur, au final, tout ce qui peut être thérapeutique dans la vie de manière générale, quoi. Je pense que c'est une bonne entrée. Le remboursement des soins thérapeutiques autres que psychiatriques, en fait. Arrêtez de donner tout le fric aux psychiatres. Donnez-le aux... aux autres thérapeutes, je sais pas. Voilà, un truc un peu comme ça.
On s'était posé la question de quel thème on pouvait aborder. Et nous, à Démocratie, c'est vrai qu'on est assez critique de la psychiatrie. Et en même temps, on se dit qu'on doit penser à un autre modèle. Et c'est pourquoi on s'est dit qu'il fallait se pencher sur cette question-là. Donc nous, à Démocratie, on essaye de développer des soins autogérés. On essaye de aussi intervenir dans l'espace public sur les questions de santé mentale de manière avec une critique un peu radicale. Mais je voudrais aussi réfléchir collectivement à sur quoi on peut s'appuyer et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, quoi. Comme modèle qui soit viable et qui réponde aux besoins de santé, parce que comme l'a dit Anna, demain aussi on sera fou et après-demain aussi. Donc il faut penser ces questions-là pour le futur de nos enfants.
Bah, aujourd'hui on ne s'y retrouve pas parce que c'est hiérarchisé, le psychiatre en haut, les autres en bas et les autres, donc c'est les malades. Qu'entre les deux, il y a les infirmiers. Les infirmières et les infirmiers. Les agents de production de soins. Et que tout ce petit monde-là communique pas entre eux. Et l'information, elle part du psy vers les soignants. Elle va jamais des soignés vers le psy. Et que ce serait pas mal qu'on rajoute, qu'on mette un peu, comme disait Lou, de l'autogestion dans tout ça pour que l'information, elle soit pas centralisée auprès du psychiatre qui serait tout puissant.
Et de l'autodétermination dans le sens où que ce qu'on appelle le patient revienne au centre de la gestion de son soin et de sa dynamique de soin, parce qu'en fait, on est souvent écrasé par l'institution où en fait, on est traité un peu comme des bêtes. Bah, en fait, on trouve pas le moyen d'aller vers un rétablissement aussi parce que on ne laisse pas le moyen de prendre les choix et les décisions sur notre parcours de soins. Donc une autodétermination, je pense, c'est important. Je fais la différence avec l'autogestion qui est en fait qui serait une gestion du soin, alors que là c'est plus intime, personnel. Comment nous-mêmes on prend le pouvoir sur notre parcours de soins, quoi. Ce que nous permet pas l'institution, j'ai l'impression en tout cas.
Ouais. Il y avait aussi pour moi en tant que professionnel, c'était aussi de. Enfin, le contexte aujourd'hui, c'est comme t'as dit, Anna, c'est très hiérarchisé. Et toi, en tant que soignant, il y a assez peu de sens à ce que tu fais puisque tu exécutes ce que dit, ce que pense le psychiatre et tu n'as aucune autonomie et tu es là en fait, tu exécutes des ordres qui sont souvent coercitifs. Moi j'ai quand même mis des gens dans des chambres fermées, je les ai piqués de force, voilà, ce genre de pratique. Et c'est aussi réfléchir à une institution qui soit beaucoup plus tournée vers quelque chose de bienveillant et qui permette d'avoir une réflexion collective dans le travail, et voire même si on pousse le vice, c'est une réflexion avec les personnes concernées. Voilà. Mais bon, là, c'est...
Là, t'as carrément poussé le vice, quoi. Ouais, c'est vicieux.
Comment les personnes concernées ?
Aujourd'hui, c'est une personne qui décide, c'est une seule personne qui est le psychiatre, et dont tout le monde croit qu'il est intelligent, qu'il est en capacité de décider de la vie des autres et du travail des autres, et que ça, c'est une erreur. C'est une erreur, quoi. Personne n'est suffisamment intelligent pour décider décidé pour tout le monde et qu'il faut en revenir à la réflexion et l'action collective.
Et puis même, le psychiatre en général, il ne nous connaît pas si bien que ça dans les institutions.
Ouais. Pour ne pas dire qu'il ne nous connaît pas du tout. Hein.
Parlez dans le micro, madame.
Si ouais, madame.
Pas. Pour dire qu'il ne nous connaît pas du tout, hein. Je pense que bah, pour avoir une expérience moi-même, la dernière fois, me rendant chez mon psychiatre, elle m'a posé la question à savoir qu'est-ce que je peux faire pour vous. Donc ça m'a vraiment outré. Parce que je me disais, en tant que malade, je viens d'avoir...
Tu lui as pas dit éponger mes dettes?
Déjà qu'elle éponge un petit peu mon mal-être, ce qui n'est pas le cas avant mes dettes. Mais bon, après, c'est la descente aux enfers, hein, les dettes, le mal-être, tout ça, quoi. Et bien, j'avoue que depuis qu'elle m'a dit ça, je ne suis plus retournée la voir. Donc, je trouve ça très choquant.
Oui, et puis ça me fait rebondir qu'il y a ce truc où les gens, ils ne veulent pas aller à l'hôpital, ils veulent pas, ils ont du mal à les soigner, etc. Et ce n'est pas juste parce qu'on a peur, hein, y a de la psychophobie, ou on n'accepte pas de se faire soigner. C'est que vraiment, c'est des institutions qui ne font pas envie, quoi, qui sont même traumatisantes. Non, pour
qui
beaucoup,
font du mal, hein.
Qui font du mal, qui détruisent, et il faut sortir de ce truc-là, quoi.
Oui, non, mais j'avoue qu'une fois qu'on va là-bas, déjà, il y a l'ambiance, il y a l'accueil, il y a tout ce qui va avec. Ça donne pas envie, c'est plus traumatisant. L'expérience que je vis, moi, au CMP, par exemple, c'est vraiment traumatisant. Alors, du coup, sachant que je suis malade, quand je vais là-bas et que je vois tout ce qui se passe, j'ai peur de devenir encore plus malade. Donc, c'est pas tellement me pousser à me soigner. Enfin, j'appelle ça le dealer, moi. Quand je vais chez le psychiatre, je dis que je vais chez mon dealer. Pareil. Parce que la première chose qu'elle me demande, c'est comment ça va, les médicaments, ça marche, ok. Eh ben, on va faire une ordonnance. Parce que si je commence à parler d'autre chose, c'est quelque chose qui la dépasse et dont elle n'a pas envie d'entendre parler, quoi. Elle, c'est les médicaments et le reste, ben, on va voir si on peut trouver une place avec un psychologue, chose qui est très difficile actuellement.
Hein?
Et une fois qu'on vous a titré un psychologue, si vous entendez pas avec, eh ben, c'est parce que vous êtes fou, vous êtes pas normal. Donc y a pas c'est pas vraiment du soin, quoi.
C'est
pas vraiment du soin. Donc moi j'ai tellement peur d'être enfermée que je dis que tout va bien et puis je reste chez moi et je me drogue. Voilà.
Ah, ouais, mais c'est, moi je suis assez d'accord avec toi parce que pareil, en fait il a fallu que je fasse plus de 10 ans de suivi psychiatrique pour au final avoir un psychiatre au CMP que je vais voir bah, une fois par mois. Et pareil, moi je l'appelle mon dealer parce que quand je viens, en fait moi je sais déjà ce que je vais prendre comme médicament.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Parce que j'en ai testé assez pour connaître ce qui fonctionne sur moi, à quelle dose. Et finalement, c'est moi qui lui fais ma petite commande en arrivant et qui repart. Et sinon, il connaît pas ma vie. Alors, moi, je considère, j'en ai parlé avec Anna, qu'au final, en fait, ce que fait le psychiatre, c'est une très petite partie de ce qu'on pourrait appeler le soin. C'est, moi, je dis, moi, mon truc, c'est de dire, bah, si les médicaments avec le psychiatre, c'est 30%, les 70%, ce serait le psychologue qui devrait, entre guillemets, aider au niveau de l'esprit. Mais en fait, trouver un bon psychologue, c'est difficile. Et trouver un psychologue remboursé, c'est encore plus difficile. Alors, au final, bah, on n'a pas accès aux soins, quoi, en fait. On n'a tout simplement pas accès aux soins. Donc, c'est pour ça que moi, je pense un peu à aller vers une forme d'autogestion, parce que je pense que ce sera pas dans les futures années qu'on nous donnera plus d'accès. Bah, si maintenant, tu peux avoir remboursé, je crois, 2 séances de psy, un truc comme ça.
C'est ridicule.
C'est absolument ridicule en sachant que, bon, une psychothérapie ça peut durer des années, quoi. Donc, là, surtout, on a beaucoup de traumatismes et de choses comme ça. Puis surtout, enfin, le psy, c'est le psychologue, c'est pas le seul soignant qu'on peut, ou la seule façon de se soigner qu'on peut avoir dans la vie. Et ça, ce serait bien de pas l'oublier. Rien que tout ce qui peut être des approches thérapeutiques vers le corps, ou même trouver le moyen d'avoir une hygiène de vie avec des structures qui le permettent, ce serait cool.
Moi, j'ai envie de dire que ce serait bien de commencer déjà pour avoir un lieu d'écoute. Hein. Un lieu où on pourrait juste y aller et trouver du réconfort, une écoute.
Ça, c'est la deuxième question. Hein.
C'est la deuxième question.
Trop vite, hein.
Ah bon?
Ouais.
Ah, ben oui. Bah ouais, non, mais le fait de parler de médicaments, voilà, ça me donne envie de dire ce que j'aimerais, moi. Mmh. Avoir un endroit comme ça. Ok.
Mais c'est la deuxième question.
D'accord.
Moi, je voulais juste rajouter un truc sur la première question.
Ouais.
C'était que, dans des perspectives historiques, les politiques publiques vont vers un certain endroit pour la psychiatrie, qui va de plus en plus vers le sens de la réhabilitation psychosociale, éventuellement du rétablissement. Mais on voit que c'est à la sauce néolibérale, où on va fermer des hôpitaux, on va fermer des structures de soins, on va renvoyer sur l'associatif, à qui on donne pas de moyens. Moi, par exemple, je suis dans une association... un chez-soi d'abord, où on me demande de m'occuper de 75 personnes, où j'ai 30 minutes pour faire des visites une fois par semaine pour les voir. Donc voilà, il y a tout est fait pour que les questions de santé mentale soient à nouveau négligées, quoi. Et donc il faut qu'on arrive à produire un contre-discours et aussi des propositions qui changent la donne. Vive la révolution.
Je me suis posé la question à savoir, est-ce qu'on veut réellement nous soigner ou faire en sorte qu'on reste dans cette situation pour pouvoir faire du commerce, les médicaments, les laboratoires, etc. Que je deviens un peu paranoïaque.
Ben c'est sûr que les médicaments, c'est les laboratoires et que c'est Sanofi. En tout cas, moi, les médicaments que j'ai pris, c'était Sanofi. Maintenant, je suis sur un générique, donc, parce que c'est un vieux médicament. Mais c'est sûr que nous médicamenter, c'est une façon facile de s'occuper de nous, qu'on ne soit pas dérangeant socialement. Et ils ont tout intérêt à ce qu'on ne reste pas dérangeant socialement, parce que si on se mettait à manifester, à montrer qu'on existe, ben, vu la psychophobie ambiante, ce serait...
C'est pour ça que j'ai plus envie, j'ai pas envie de parler, que j'ai envie de rester dans mon coin. Alors, je pense, ça marche bien.
Bah, c'est que la pression sociale qui nous est imposée marche bien. Et c'est là où je dis qu'il y a un espèce de piège avec leur établissement actuellement. Même si c'est même pas encore si entendu et développé que ça, c'est l'idée que non, mais il y a des moments où on est comme vous, où on est normal, ce qui est vrai.
Ah oui. Oui, quand même, on n'est pas tout le temps fou.
On n'est pas tout le temps fou, heureusement. Non. Mais comment, en fait, quand on est fou, notre parole, elle n'est pas entendue, elle n'est pas écoutée. Parce que c'est ça la psychophobie. Hein. C'est vu qu'on est fou, tout ce qu'on dit peut être pris par-dessus la jambe. Quoi. Bon, je m'égare, je pars du sujet là. Mais,
Non, mais c'est vrai. Ouais. Que parce qu'on est fou, on est moins pris au sérieux que quelqu'un qui ne serait pas catalogué fou. Parce que nous, forcément, on ne sait pas. C'est le psy qui sait. Et donc, c'est lui qui est tout puissant et qui nous dit, ben voilà, toi, t'as telle maladie, tu dois prendre tel médicament. Et jamais, à aucun moment, on va parler des médicaments, quels sont leurs effets.
Tu dis n'importe quoi.
Quoi, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe.
T'es folle, je crois que t'es folle.
Ah, mais c'est pas grave.
Bon, en fait, nous, on est fous, on se soigne. Mais moi, quand je vais voir mon psychiatre, j'ai l'impression qu'il est encore plus fou que moi, mais il ne se soigne pas. Donc, c'est juste une impression, mais bon.
Bah, moi,
elle est véridique. Hein.
T'as des noms?
Ah, je te dis pas. J'ai pas envie d'être enfermée des deux mains.
Mais c'est vrai que c'est mon impression en tant que fou, c'est que, en fait, on est, par notre folie, on est obligé de faire. Et c'est là que je reviens à l'autogestion et l'autodétermination du soin. C'est que, on a peut-être notre expertise sur la vie, même de manière générale, dans le futur, justement. En tant que fou, c'est qu'on a une expertise de l'introspection et de la question de la souffrance psychique. Et nous, la différence avec les autres, c'est qu'on est obligé de se la poser, cette question de notre souffrance psychique. Et je pense que c'est une expérience qui pourrait servir à tout le monde dans le futur, par exemple.
Mmh. Y compris même certaines valeurs qui pourraient devenir subversives, quoi. De la fragilité, la vulnérabilité, ça peut être des choses positives. Et ça contre aussi les valeurs de l'époque capitaliste où, au contraire, il faut être fort, il faut être dur. On est dans la compète. Et que, non, ouais, au contraire, on est. Chez les fous, il y a la question de l'entraide et d'accepter que oui, on est fragile, on a des moments de vulnérabilité et que c'est ok, que ça fait aussi la sensibilité, c'est une bonne chose, etc.
Oui, et puis même, bon, après, moi, c'est un peu ma théorie de dire qu'on est dans une société post-eugéniste. En gros, qu'on n'a pas fini, une des grandes insultes, c'est de nous traiter de tarés. On a une tare, comme une tare génétique, quelque chose qui devrait pas être là, quoi. Au lieu de questionner cette chose qui est là et qui nous fait agir différemment, qui nous fait réfléchir différemment, qui nous fait vivre différemment, et qu'est-ce qu'elle peut aussi apporter à la société, cette étrangeté, cette tare.
Bah, tu serais artiste, tu apporterais, tu ne l'es pas, donc
c'est ça.
Pour la société.
Tu es artiste.
Tu es artiste. Tu n'es pas encore artiste, tu es artiste. Donc,
voilà quoi.
Oh, ça ne saurait tarder.
Super. Quels changements vous paraissent importants à faire sur les pratiques de soins et sur l'organisation du système de soins?
Waouh.
Ouais, poser comme ça, hein, c'est impressionnant. Wow. Hein.
J'aimerais tout d'abord dire que j'aimerais qu'on ait plus d'humains, que les humains deviennent de plus en plus humains. Hein, qu'il y a ce côté humain, où il y a de l'humanité, il y a l'empathie, il y a de l'écoute. Et...
Ah, c'est pas ça qu'ils sont censés faire, les psys?
Je pensais aussi, mais bon, c'est pas le cas, en tout cas, c'est pas ce que je reçois, moi. Donc je rêverais de trouver un lieu d'écoute où il y a de l'empathie, où il y a en face de moi des êtres humains, avec tout ce que ça comporte. Voilà, quoi, peut-être ça fait bisounours, mais je pense que s'il y avait un peu plus de bisounours sur Terre, eh ben, il y aurait moins de fous, peut-être. Mais après tout, pourquoi pas que les fous, c'est pas dangereux, quoi.
Non, c'est pas dangereux, un fou. Puis c'est pas contagieux.
C'est pas contagieux non plus, oui, c'est vrai. Et puis, je crois qu'on est moins fous que les fous qui nous gouvernent, déjà. Je déteste la politique, mais il faut que je le dise. Hein, je les trouve encore plus fous que nous.
Bah, en fait, c'est la folie.
Ça, c'est de la psychophobie, ça.
Ouais. La folie. Quelle est la folie tolérable, acceptable? Ce que tu dis là, ça me fait penser qu'en fait, on a l'impression qu'on entre dans une espèce de machine robotique où tout est classé. Même les diagnostics, en fait, c'est des espèces de cases référentielles sur lesquelles les psychiatres se basent pour pouvoir trouver la case dans laquelle nous mettre et selon la case nous donner tel médicament. Alors, c'est efficace dans une certaine mesure, mais il y a... Justement, on n'est pas juste notre diagnostic, on est tout ce qu'il y a autour. Et en fait, il y a plein de gens qui peuvent se retrouver entre plusieurs diagnostics. D'ailleurs, en général, dans un parcours psy, on se retrouve avec 14 diagnostics avant d'avoir, entre guillemets, le bon.
Si on a le bon.
Si on a le bon. Mm-hmm. Mais surtout, en fait, qu'est-ce que c'est que le bon? Le bon, c'est le bon médicament, en fait. C'est ça la question du début à la... J'allais dire à la fin. Du début à la suite de notre parcours psy. Et c'est vrai que bah, une fois que tu as le bon médicament, souvent même il y a le fait d'avoir le bon diagnostic. Moi, quand j'ai eu mon... Entre guillemets, moi ils ne voulaient pas me donner de diagnostic parce que j'étais trop jeune. Quand j'ai eu mon premier diagnostic, j'étais heureux. Je me suis dit, ah, enfin, on peut mettre un mot sur ce que j'ai. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ça ne me sert à rien à part avoir un statut social. Ben, moi, ça me permet d'accéder à des droits en tant qu'handicapé, au CMP gratuitement, ok, bon... Maintenant que tout ça s'est fait, ben, je suis toujours fou et je vis toujours la souffrance psychique, quoi. Donc, tout ça a servi à quoi? C'est ça la question que je me pose quand j'arrive à un certain moment de mon parcours psy. Maintenant, c'était quoi la question déjà?
Voilà. Je me suis perdue.
C'était sur les pratiques de soins et qu'est-ce qu'on veut comme transformation sur les pratiques de soins? Et ensuite, c'était sur l'organisation du système.
Bah, moi, la question qui me pose... que je me pose le plus, c'est qu'est-ce qu'on fait en dehors de bah, du coup filer des médicaments. Et en fait, on se rend compte qu'il y a peu de choses. Bah, avoir accès facilement à un psychologue, la possibilité d'en changer quand on veut.
Ouais.
Voilà. Parce que moi, ce que je trouve, le truc qu'on dit pas, c'est que c'est pas justement là où on revient sur l'humain. On n'est pas des robots. Quand on se retrouve face à une personne, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et on peut pas face à n'importe qui raconter les choses les plus intimes de notre vie. Donc on a besoin d'avoir quelqu'un en face de nous sur qui on peut compter, avec qui on a une certaine accroche, une certaine confiance. Et ça, c'est purement humain. Donc c'est pas n'importe quel psychologue qu'on peut voir, c'est pas n'importe quel psychiatre qu'on peut voir. Dans un monde où on est tous des humains et on fonctionne tous différemment et on a des valeurs différentes, quoi.
Est-ce que ça doit être nécessairement un psychologue d'ailleurs?
Non, pas forcément.
Non, après, le deuxième truc, c'était de dire bah, tout ce qui est du domaine du soin, mais qui n'est pas psychiatrique, qui n'est pas psychologique, ce qui est thérapeutique au sens large, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire soi? Moi, par exemple, ma grande question, c'est de dire, mais faudrait peut-être ramener de la philosophie dans la psy, parce que comment on se pense, c'est important pour évoluer en tant que personne. Et dans la psy, en fait, on a l'impression que qu'ils se sont jamais posé toutes ces questions-là. Ils ne cherchent pas le sens de la vie, quoi, en tant que soignant. Et c'est quand même bizarre parce que avoir du sens dans sa vie, je pense que c'est la première chose qui donne de la vitalité, quoi. Et c'est une question qui est peut-être philosophique, mais peut-être que les psys devraient être un peu plus philosophiques.
Je suis d'accord avec toi.
Ouais, je suis d'accord aussi. D'ailleurs, il fut une époque où il n'y avait pas de médecin pour s'occuper de la santé mentale. C'était l'affaire des philosophes. Et voilà.
Et des philosophes fous, il y en a quand même pas mal, hein. Ouais. Si ce n'est pas pour tous, si ce n'est pas tous.
Dire un truc?
Non, je suis en train de philosopher là toute seule dans ma tête. Mais c'est vrai que les structures de soins telles qu'elles sont pensées aujourd'hui, elles sont super cloisonnées. Il y a le psychiatre qui prescrit un psychologue et après il y a un an d'attente, voire plus, pour avoir un psychologue. Et puis c'est pas forcément le bon psychologue parce que bah, pour avoir son psychologue, pour moi, j'en ai testé plusieurs, donc je les vois en tester plusieurs. Et puis, il faut qu'il soit adapté à son cas, parce qu'on ne soigne pas une dépression comme on soigne,
un trouble traumatique.
Un trouble traumatique.
Complexe.
Ouais, on soigne pas ça pareil. Et que, ben, visiblement, l'État manque de moyens. Puisque les psys...
Il faut reverser au MEDEF.
Ouais, voilà. Il faut que le MEDEF nous reverse. L'État manque de moyens. En tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on va dans les CMP. C'est un cruel manque de moyens. Qu'on n'en a rien à foutre de nous. Qu'on est là juste pour recevoir nos traitements, nous comporter correctement socialement. et qu'on va pas chercher forcément à ce qu'on aille mieux ou du moment que socialement on c'est les ça. Laisse tranquilles.
Moi c'est ça le constat que j'ai fait au bout d'un moment à l'hôpital, c'est que je me suis dit ils cherchent pas à ce qu'on aille bien, ils cherchent à ce qu'on soit fonctionnel dans un système capitaliste, c'est-à-dire que dans l'idéal on puisse se mettre à travailler. Et dans le pire des cas, bah, qu'on reste chez nous et qu'on fasse chez personne, quoi.
Toi, tu vas pas bosser, toi, feignasse.
Ouais, c'est exactement ça. Mais bosser, ça me rend fou. Donc à un moment, faut choisir.
Ça aliène, hein, de bosser.
C'est ça.
Après, les fous, j'ai envie de dire les fous pauvres et les fous, entre parenthèses, riches ou dans d'autres milieux, sont traités différemment.
Bien sûr.
Donc, moi, je peux en parler parce que je me suis occupé des fous pauvres et des fous riches. Oui. Et c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes réflexes. Il y a beaucoup plus d'empathie. Du coup, tu parlais d'empathie tout à l'heure. Et je pense qu'il y a une identification qui est plus possible parce qu'un médecin, ça vient d'un milieu bourgeois et que quand il est face à des patients bourgeois, il s'y retrouve plus, il est beaucoup plus souple.
Monde.
Maintenant, je sais pas s'il y a plus d'espoir pour les personnes, les fous riches. Alors, quand ils sont pris dans le système de soins psy public. Hein. Après, sur ce qui est libéral, etc., j'en parlerai pas parce que moi, je connais moins bien. Mais j'ai pas eu l'impression que c'était plus émancipateur que ça dans les secteurs où il y avait des patients bourgeois. J'ai pas senti que c'était plus émancipateur, quoi.
Ouais, et puis même dans le.
Mais c'est plus coolos, quoi. Bah,
je sais pas, il y a des fous bourgeois qui viennent quand même dans les institutions.
Ouais. Dans les CMP, ouais. Ouais.
Bah, parce que t'as certains quartiers de Paris, Île-de-France et certainement dans d'autres coins de la France où il y a quand même des quartiers très bourgeois. Ils vont pas forcément nécessairement aller que voir un psychiatre libéral ou quoi. Ils vont avoir besoin de structures type centre d'accueil, hôpital de jour, tu vois.
Et après, faut pas croire que les psys libéraux sont moins bons que les autres. Hein. C'est pas vrai. Moi, j'ai testé.
Ouais,
j'ai testé que, bon, pas longtemps, mais. J'ai testé des soi-disant bons psys spécialisés dans l'autisme qui n'étaient pas forcément meilleurs que ceux que j'ai eus à l'hôpital. Ils étaient bien plus chers, par contre, ça c'est clair. Et moi, par contre, niveau psychologie, si. Dans le libéral, j'ai trouvé ma psy, mais maintenant que je sais pas pourquoi mon AEH a été baissé, c'est plus difficile de la payer. Donc c'est ça la question, quoi. C'est maintenant, bon, je la vois une fois par mois, mais il faut que j'ai les sous de la payer une fois par mois, quoi.
Moi, je voulais revenir sur les questions d'empathie ou de sentiment un peu que c'est robotisé en psy. Et moi, je pense que c'est hyper important qu'il y ait effectivement des postures qui changent radicalement. Et que donc ça pose la question de la formation. Moi, je pense qu'effectivement, il doit y avoir une formation en psychiatrie qui soit conséquente, notamment chez les infirmiers, il n'y en a pas.
Avant, il y avait.
Avant, il y avait, mais il n'y en a plus. Et du coup, il faut repenser les formations et il faut imposer, entre guillemets, à défaire les rapports de pouvoir qui existent entre soignants et soignés. Et ça, il faut mettre en place certainement des contre-pouvoirs, des choses qui permettent
ça.
Et après, sur le truc de qu'on choisisse ces professionnels, mais moi, je me demande s'il faut les choisir, en fait, parce que est-ce qu'il faut avoir affaire à une seule personne ? Et moi, je pense qu'il faut avoir affaire à des collectifs de soignants et qui est face à des collectifs d'usagers. Alors, il y a certainement des temps individuels à avoir, mais je pense que c'est plus comme ça qu'on se libérera aussi. Parce qu'un rapport soignant-soigné, il est forcément asymétrique. T'as forcément un lien un peu de dépendance, de... Voilà. Alors, des fois, ça aide, mais la relation, elle est biaisée, quoi.
Oui.
Et c'est quand même dangereux. Et je me dis que si on a affaire à davantage de collectifs chez les soignants et de collectifs chez les usagers aussi, parce qu'il y a aussi aujourd'hui la question de l'entraide, elle est complètement niée dans les services de soins, alors qu'elle existe. On fait croire qu'elle n'existe pas, on l'interdit même.
Alors que c'est... Moi, de tout ce que j'ai entendu de ceux qui ont un long parcours des institutions, c'est au final, les soignants étaient un peu dans le décor, et on s'aidait entre nous à évoluer avec notre trouble, quoi.
Et toi, Fatia, t'as parlé de lieu d'écoute, de temps d'écoute, et moi, je pense qu'effectivement, il doit pouvoir y avoir ça avec les soignants, et des temps d'écoute non jugeants, parce qu'aujourd'hui, les soignants, ils jugent, ils passent leur temps, mais ce qui est normal, ils évaluent aussi. Ils sont formés à évaluer, voir si tu réponds à tel ou tel diagnostic, si tu vas bien ou pas bien, ils sont formés à ça. Mais en fait, il n'y a pas le temps d'écouter l'autre et sa vie et dans quelle dynamique il est et d'un rapport humain plus simple, quoi. Et on est vraiment dans un rapport qui est tellement médicalisé qui fait qu'il n'y a pas la place à la relation vraiment, quoi. Et donc, c'est tout ça qu'il faudra revoir. Et j'en étais où après ? J'avais pas fini. Hein.
Mais moi, dans ce que tu dis, moi, ce que j'entends, c'est surtout la question du capitalisme, en fait.
T'entends ça quand je parle ?
Ouais. Non, mais la question de, la question de comment, en fait, la vision capitaliste du soin. Les psy, enfin la psychiatrie ne remet pas en question le capitalisme. Mmh. Elle fonctionne avec et elle fonctionne dans ses codes. Et ces codes ne marchent pas. Alors bon, il y a plein de situations où ça ne marche pas, mais dans le cadre du soin, ça empêche la communication, ça empêche justement ce que tu disais, en fait, le collectif, la question du collectif.
Parce que je pense que c'est plus ça, c'est une vision, des individus, tu vois. C'est une vision médicale qui fait que tu traites un objet par un objet, enfin un patient par un patient. C'est plus une culture, une vision médicale. Après, sur l'aspect capitaliste, là, pour le coup, c'est tout ce qui est en ce moment réhabilitation psychosociale, etc., où on veut remettre la personne, la faire redevenir fonctionnelle, quoi. C'est ce que t'expliquais tout à l'heure.
Ouais.
Et là, il y a vraiment, il développe un truc assez. Et puis après, c'est toutes les conneries d'économie d'échelle, d'être efficient,
Et même la hiérarchie,
d'être productif.
Et ça, tu l'as même chez les soignants qui passent leur temps à faire de côté les trucs, de faire j'ai fait ça. Ça te met dans un.
Il y a une espèce de rendement à.
Ouais, c'est ça. Ça te met dans un délire de rendement. C'est complètement con. Et tu passes. En fait, tu vas passer 3 heures sur l'ordinateur. Sur ta journée, au lieu de passer ton temps avec les personnes, quoi. Et faire du karaoké, par exemple.
Bah oui.
Ah oui, ça me dit quelque chose, ça, déjà, oui.
C'était bien, le karaoké.
Ouais, c'était bien. C'était un grand moment, chanter et
Qu'est-ce que vous chantiez mal ?
Bah et alors ? Incroyable. L'essentiel, c'est de chanter, ça fait du bien.
Ouais, je vous juge.
Arrête, on a dit qu'il fallait être bienveillant et... Oui, moi je trouve que effectivement dans la façon dont on est traité, notre établissement en tout cas,
on est maltraité en tout cas.
Il est traité pour qu'on soit productif et il n'est pas du tout vu en termes de qu'est-ce qu'on apporte à notre communauté et le rétablissement, c'est médicalement, c'est 2 ans stabilisés. On est rétabli et on passe à autre chose et on est censé pouvoir aller travailler. Alors qu'on peut être très bien stabilisé et avoir besoin encore d'introspection, de reprise de confiance en soi.
Ou on peut être rétabilisé et pas avoir la capacité de travailler. Moi, c'est aussi ça que... dont j'ai l'impression. Je connais certaines personnes qui vivent avec leur hache et qui travaillent pas, mais en fait, et qui vont bien. S'ils se mettaient à travailler, ben ils iraient mal.
D'accord. On aura compris que tu veux pas travailler, quoi.
Non, mais après, moi j'ai ma vie, mais si tu veux, j'ai des amis comme ça qui vraiment leur trouble leur permet pas de travailler. Donc ils sont sortis de l'institution, ils ont trouvé une petite maison pas chère et puis ils survivent avec la hache, quoi. Est-ce que c'est une forme de résistance au capitalisme ? Je ne sais pas.
Si. Moi, je pense que si, quand même. Hein.
Bah, il y a quand même quelque chose qui se dit, quoi, que le capitalisme rend malade qui que ce soit.
Ah.
C'est ça, mais que c'est peut-être nous, en tant que fous, on a une certaine sensibilité qui fait que, bah, on est carrément, ça nous met en incapacité de travailler ou de faire le rendement qui nous est demandé, que justement.
Après, pour revenir sur les pratiques de soins, moi je pense que ce serait très important, c'est qu'en psychiatrie, il y ait mais de manière massive beaucoup plus de personnes concernées, des pères aidants, machin, qu'il y ait beaucoup plus de sociaux, des éducs, des philosophes, des chercheurs,
des gens qui sont les trois en même temps.
Ouais, voilà. qu'il y ait vraiment un bain multiprofessionnel. Oui. Mais vraiment large, parce que les questions de santé mentale, elles traversent tellement de trucs, c'est tellement complexe.
Oui, et puis moi, je pense même mélanger, en fait, plus les différentes personnes qui ont besoin de soins pour qu'elles s'entraident avec leurs spécificités. Par exemple, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des handicaps mentaux qui peuvent être moins affectés par la dépression, qui peuvent apporter des belles choses à des gens qui sont dépressifs, et des gens qui sont dépressifs qui peuvent apporter des belles choses à des gens qui sont handicapés, et des handicapés qui peuvent apporter à des gens qui n'ont rien du tout, mais qui sont éduxpés ou je sais pas, mais... Moi, je pense qu'il y aurait une coordination à faire, une entraide justement collective à faire entre toutes les personnes qui se retrouvent un peu au banc par leurs troubles physiques ou psychiques, quoi, de manière générale.
Tout ça me fait penser à ce que fait exactement Démocratie actuellement.
C'est qui Démocratie ?
C'est qui cela ?
Comment, vous connaissez pas Démocratie?
Non, on connaît pas. Non.
Je vois.
Mais non, mais là je suis
Démocratie, choquée. La meilleure association du monde.
Exactement.
De l'univers.
Du multivers.
Qui est très ambitieuse et qui a vraiment tout compris sur la santé mentale, parce qu'elle intègre les professionnels, les malades, ouais, et les soignants.
Et les professionnels malades.
Et la famille, oui, exactement. Ouais. Et qui envisage de s'entraider, de sortir de cette situation ensemble, ce que fait pas exactement les institutions.
Ben non, même pas du tout.
Et voilà. Donc, donnez-nous le pouvoir, donnez-nous les moyens.
Ouais, on va s'occuper.
On va s'occuper de tous les malades.
Mais c'est vrai, vous savez pas.
Il y en aura plus.
L'isolement, en fait, l'isolement dans
lequel on se retrouve. C'est un mot qui me parle, l'isolement.
Que ce soit nous, personnellement, en tant que fous, ou les gens qui sont autour de nous, la famille, justement, qui se retrouvent isolés, justement, de la société, parce que quand quelqu'un est fou, on s'en écarte, et puis tu te retrouves seul face à l'institution, et ça prend des années de comprendre que ça marche pas, en réalité, et que c'est là où, moi, en tout cas, personnellement, je suis venu en démocratie, je cherche une forme de collectif, parce que on a un vécu, et je pense que tous les fous ont vécu de l'isolement, quelle que soit la forme, et est-ce qu'on peut pas apporter dans le futur des réponses à cet isolement qui en plus se creuse actuellement dans nos sociétés de plus en plus libérales avec internet et tout, les jeunes sont très 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 seuls, et je pense que les fous peut-être dans le futur auront des réponses à donner là-dessus.
Oui, et sur l'organisation du système de soins, moi j'avais en tête qu'il y ait des maisons de santé mentale qui soient avec la politique de soins communautaires, donc pour ceux qui savent pas, aller chercher.
C'est pas très sympa.
Dans les soins communautaires, en gros, c'est vraiment des rapports horizontaux entre usagers et professionnels.
C'est bien les rapports horizontaux.
Et on prend en compte l'environnement, les inégalités sociales, parce que on comprend quand même, et c'est pourtant basique, mais on comprend bien que l'environnement, s'il est pourri, tu vas quand même aller mal, donc il faut appréhender ces questions-là, quoi. Et il y a beaucoup d'entraide, a priori, en tout cas sur le principe du soin communautaire. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle communautaire. Et voilà, donc ces maisons de santé psy qui soient à disposition très rapidement et en lieu et place certainement des CMP, que ce soit autre chose qu'un CMP, qui sont devenus des espèces de trucs ronrons bureaucratiques, pas très intéressants. Et puis, dealeuse de médicaments, À part ça, il n'y a pas grand chose. Et après, sur la question de l'hôpital, moi je pense qu'il va falloir qu'on repense complètement l'hôpital psy. Il y a quelque chose à abattre et à reconstruire là, parce qu'il n'y a plus grand chose à faire là. Récupérer.
Ah moi, j'en suis au point où je pense qu'il faut créer une contre-proposition à l'hôpital. Alors, j'ai pas d'idée claire actuellement, mais c'est sûr que. En fait, moi, je suis en train de me dire comment on répare la casse après être passé à l'hôpital. C'est ça la question.
Après, moi, j'ai pensé à un truc dans l'idée toujours des collectifs, l'hôpital il soit tenu par des collectifs de travailleurs et des collectifs d'usagers.
D'usagers. Mmh.
Voilà. Moi, j'avais ça en tête.
Des
soviets travailleurs et usagers, qu'ils pensent ensemble. La gestion de l'hôpital et les soins. Parce qu'il faut
soit payé pour ça.
Ouais. Faut surtout pas laisser les médecins ou les directeurs s'occuper des hôpitaux. Ils ne savent pas faire. Ils sont dangereux, ces gens-là. Et donc, essayer de voir, déjà à partir de. Voilà, les gens, de manière autonome, ils essayent de penser l'hôpital, les lieux d'hospitalisation. Ça pourrait être un truc.
Oui, et puis même selon ton état, tu peux faire telle chose ou telle chose dans le lieu. Tu peux faire à manger. Déjà, ça nous permettrait d'arrêter de manger des immondes omelettes
lyophilisées. C'est bon, Sodexo. C'est bon, les barquettes.
Mais qui est une vie, en fait, à l'hôpital, que ce soit pas justement.
Pour l'instant, l'hôpital, il nous assomme. Hein.
Ouais, c'est ça.
Le but de l'hôpital, c'est de nous assommer pour pouvoir nous gérer à 50 dans une petite structure qui devrait en recevoir que 30.
C'est ça.
Et c'est comment on est des légumes pour qu'ils puissent s'occuper de nous et qu'il n'y ait pas de débordement.
Et après, moi, je pensais que, tu vois, là, aujourd'hui, il y a des structures type hôpital de jour, CATTP sur chaque secteur. Et je me dis que des lieux comme on connaît, nous, le hangar à Montreuil, où il y a plein de gens qui font des choses. Et nous, on y a trouvé une place. Les fous ont trouvé une place là-dedans, au milieu de collectifs d'artistes, des gens qui font de la couture, qui font de la maroquinerie, qui font du son, qui font de l'hébergement d'urgence. Et peut-être, voilà, créer aussi des maisons de quartier, où se mélangent tous les publics et qui créent du lien social. Là, on est dans un centre un centre d'action sociale. C'est un peu ce genre d'endroit où on se retrouve. Bon, là-bas, le hangar, c'est encore autre chose, c'est une autre expérience, mais dans ces lieux-là où plutôt on accueille les fous plutôt que de les envoyer oui. avec des soignants et qui font leur des perles et de la mosaïque.
Les handicapés aussi, moi je pense. Enfin, les handicapés mentaux aussi.
Ah non, pas eux. Pas eux,
non.
Non, mais.
Pas trop malade, on a dit. Ça,
non, je plaisantais. Hein.
Bah,
big up à mon fils, handicapé mental.
Non, mais parce que tu vois, genre.
Syndrome Angelman, big up.
Tu vois, sur l'isolement et ce genre de choses, bah en fait, que dans la société, on puisse se mélanger, quels que soient nos tares, justement, que chacun puisse apporter au collectif dans des lieux où on peut faire des activités ou pas. Et parce qu'en fait c'est ça, et puis même on parle tout le temps de la sortie de l'hôpital, de après la sortie il y a rien. Bah déjà faudrait qu'il y ait quelque chose à l'hôpital, mais le côté en fait juste ce qui fait qu'on va mieux, c'est quand même qu'on fasse des choses qui nous rendent heureux. Donc souvent ça passe par le collectif, ça parle par des petites activités au quotidien, et pas vraiment par aller travailler à l'usine toute la journée, quoi, de manière générale.
Bah, du coup, on a parlé d'autres structures, justement, qui luttent pour une meilleure santé mentale. Donc, si jamais vous en avez d'autres, en dehors de l'institution à transformer, les autres terrains de lutte.
Oui, ouvrir un café associatif et accueillir les personnes et les être à l'écoute. Ça, c'est mon projet. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oh, c'est bien, ça. Oh,
c'est
bien.
C'est une bonne idée.
C'est pas mal.
Ouais. Ouais, moi, j'aimerais bien développer des techniques d'autogestion et d'autodétermination et d'introspection à travers l'écriture, l'expression corporelle, des choses comme ça. En fait, se soigner par soi-même, moi, c'est une grosse question que je me pose. Surtout parce que, vu qu'on ait accès à quelque chose ou pas dans le futur, il faut que nous-mêmes, on soit en capacité de dire, bah, tel parcours j'ai eu et qu'est-ce que j'ai fait durant ce parcours pour... à ce moment-là, aller mieux, à ce moment-là, gérer une crise, à ce moment-là, développer en fait juste des façons de faire, des petites techniques qu'on puisse se passer entre nous, qu'on puisse rapporter, développer pour se soigner et qu'on puisse faire ça par nous-mêmes. C'est ça, moi, c'est un des gros trucs, une des grosses questions que je me pose de manière générale dans la vie et que j'aimerais développer, quoi. Comment se soigner par soi-même s'il n'y a personne pour nous soigner, en fait. Mais bien sûr, ça passe par le collectif, mais ça se passe aussi par, je pense, l'introspection. On est dans une société qui empêche beaucoup, qui nous empêche beaucoup de faire de l'introspection, mais quand on est fou, on est un peu obligé. Quand on se retrouve dans sa chambre d'hôpital à, à 4h du matin à regarder le plafond, on commence à se poser beaucoup de questions. Souvent, quand on se demande qu'est-ce que je fous là, on finit par... ça entame une très très longue réflexion sur la vie. Et toutes ces petites réflexions-là, je pense que même en discutant avec d'autres patients, j'ai eu des réflexions sur le monde et sur la vie qui m'ont permis d'évoluer. Et je pense que tout ça, c'est important qu'on en fasse quelque chose pour l'autodétermination, à être soi, mais au sens même plus large. Hein, quand je parlais de philosophie, c'est aussi se dire être soi, au-delà d'aller bien ou d'aller correctement ou de faire ce qu'il y a à faire. On est vraiment dans une société qui nous empêche de savoir qui on est. Et je pense que quand on est fou, au bout d'un moment, c'est étrange, hein, c'est un peu bizarre parce que c'est bien la folie qui nous empêche de savoir qui on est des fois. Pour s'en sortir, il faut vraiment savoir qui on est, parce que pour pouvoir dire ce qu'on veut à un médecin et ce qu'on veut pas à un médecin, il faut avoir un peu du bagou, de l'expérience, des choses comme ça, quoi. Donc moi, je pense à l'autogestion, je pense à l'autodétermination et tout ce qu'on peut inventer avec. Voilà.
Il faut créer une école de la folie.
C'est ça.
Moi, j'avais en tête que, comme autre terrain de lutte dans la société, c'est déjà la question de la psychophobie. Et comment on renverse cette oppression-là? Je pense qu'on en est pour quelques centaines d'années, hein, ça va prendre du temps. Mais c'est déjà à la fois de développer des visions positives de ce que c'est que la folie, et de positif dans le sens subversif, pas dans le sens développement personnel à la mort moelle-neuve, hein.
Mmh.
Des trucs capitalistes de merde. Et donc c'est plus une vision un peu subversive de par rapport à ce qu'on a dit, quoi. Des certaines valeurs par rapport à la folie, à l'oppression qui est générée pour les fous. Comment c'est transformateur et c'est hyper intéressant dans la lutte contre l'impérialisme, le capitalisme.
Bien sûr.
Et d'autres oppressions aussi, quoi. Nous, on a quand même vite intégré à démocratie les questions de racisme, de sexisme, etc.
Surtout que la question psy, elle se retrouve au croisement d'énormément d'autres questions d'oppression, parce que être opprimé, ça rend fou. Et être fou, ça opprime. Je sais pas, quelque chose comme ça.
C'est le serpent qui se mord la queue.
C'est ça.
Bah, en fait, je trouve qu'on est un des groupes opprimés qui est le moins solidaire, le moins construit. Et il n'y a pas beaucoup de lutte, quoi. C'est quand même un groupe à opprimer, à organiser, quoi, clairement.
Oui, mais parce qu'on est encore dans une phase où, justement, en parlant d'institution, l'institution fait tout pour qu'on ne s'entraide pas. Alors qu'au final, c'est quand même l'entraide qui marche le mieux dans les institutions, mais le fait qu'il ne faut pas qu'on se touche, il ne faut pas qu'on se revoie après l'hôpital, il y a énormément, enfin en tout cas moi, quand j'étais à l'hôpital, il y avait énormément de règles pour que le rapport entre patients soit limité.
Et puis même, je pense, la folie, elle génère aussi, tu disais, de l'isolement. Ouais. Elle nous sépare aussi.
Et puis même, le nombre de gens que j'ai entendu dire « Oui, moi, je suis à l'hôpital, mais je ne suis pas fou comme les autres à l'hôpital. » Donc, il y a une espèce de psychophobie intériorisée où c'est toujours l'autre qui est fou et pas moi qui suis fou. Donc, je suis dans un hôpital de fous, mais moi, je suis le seul qui n'est pas fou. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup. Et du coup, ça fait un espèce de truc où on est ennemis dans notre problématique commune, quoi. Et ça existe encore beaucoup. Et je pense qu'il faut aussi se battre contre ça. Et que les gens se réapproprient leur folie, en fait.
Sortir de la honte.
Ouais.
C'est important de... Moi, j'ai eu vachement honte pendant longtemps. J'osais même pas faire la demande de AH parce que j'étais là. Non, je suis pas comme les autres. Je suis pas folle comme les autres. Il m'a fallu longtemps à déconstruire la psychophobie intégrée que j'avais et à me décider à me dire fou. Folle plutôt parce que... je m'énerve, mais à chaque fois, je fais bouger mon micro.
Calmez-la, apportez-lui son médicament.
vite. Et donc, il y a aussi non seulement lutter contre la psychophobie, mais aussi lutter contre notre psychophobie intégrée et le fait d'être fier de se revendiquer fou et folle.
Puis même moi, c'est pas tant que moi j'ai compris que j'étais fou assez tôt, mais par contre j'ai passé des années à cacher le fait que j'étais fou aux gens qui ne le savaient pas, enfin aux gens en dehors de l'hôpital. Il y a plein de gens qui ne savaient pas que je me rendais à l'hôpital toutes les semaines, quoi. Et en fait, t'as une espèce de double vie où tu te dis, faut surtout pas que les gens se rendent compte que je suis fou, et du coup tu commences à suranalyser tout ce que tu fais pour être sûr que... Mais après, les gens voient bien que t'es un peu bizarre, mais ils savent pas forcément à quel point. Et puis le truc de dire, je vais à l'hôpital psychiatrique toutes les semaines ou tous les mois pour aller voir un médecin, c'est pas un truc anodin à dire. Et n'en parlons pas de parler de son diagnostic, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de peur ambiante et de trucs qu'on essaye toujours de se cacher. Ou en tout cas de pas que ça se voit, de pas en parler, en fait. Il y a une espèce de politique du silence autour de ça. Même entre nous, quoi. Même entre fous, quoi. Alors, à part, justement, dans le cadre de l'hôpital, et c'est bien la seule chose qui est bien à l'hôpital, c'est que, pour une fois, les fous sont ensemble, ils peuvent se parler et ils peuvent s'entraider, quoi. Mais il y a tout le corps médical pour faire chier.
Je sais pas si à l'hôpital, ils peuvent... Parce que moi, je les trouve un peu légumes, quand même, à l'hôpital. On est légumisés. On est bien attaqué par les cachetons et on est un peu légumes. Et moi, à l'hôpital, ça bavait et ça réfléchissait.
Après, ça dépend dans quelle situation tu es. Parce que moi, je te parle de gens qui ont fait. Moi, j'ai fait des hospitalisations. Enfin, j'ai fait une hospitalisation longue et une hospitalisation courte. Mais je te parle de gens qui sont dans des hospitalisations longues où. Après, moi, c'était des jeunes parce que moi, j'ai quitté l'hôpital, j'étais encore jeune. Bon, en fait, on sait pas trop où les foutre, ils sont censés aller à l'école, mais voilà, et puis en fait...
Donc tu veux pas bosser, mais en plus tu voulais déjà pas aller à l'école.
Ouais. Ah bah, moi je me suis retrouvé à l'hôpital parce que j'allais pas à l'école, alors dis-toi.
Quel réfractaire.
Ouais. Au final, comment changer tout ça?
Par quoi on commence?
La révolution,
On
fait la révolution.
La psychorévolution.
Non, la révolution tout court, parce qu'il faut changer toute la société, parce que la société, elle est malade en premier. Elle rend malade, donc de facto, nous, on devient malade. Et si on soigne la société, peut-être qu'on n'aura pas besoin de se soigner, parce qu'on sera accueillis avec bienveillance et notre maladie. Donc, il faut faire la révolution.
Oui. Moi, je crois pas du tout qu'il y aura une société où il y aura personne de malade. Je pense qu'il y aura toujours du tragique et qu'il va toujours y avoir du conflit, il va toujours y avoir des moments, des trucs d'oppression. et que ça, c'est un doux rêve qui est, à mon avis, pas très sain de penser comme ça. Mais pour moi, la première des choses, c'est organiser les fous et les folles, quoi. Et que il y a un lobby, il y a un lobby fou et folle.
Faut créer,
bah, organiser comme on fait avec Démocratie, quoi. C'est
s'unir et se mettre ensemble,
c'est ça.
Exactement,
ouais. Ouais, d'accord. Ouais,
se rassembler et... le maximum de fous.
C'est ça. Et ouais. Puis créer nos propres espaces pour faire et puis pour réfléchir. Ah ouais. Après, il y a nous, c'est vrai qu'on avait relancé l'idée de la Mad Pride. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça passe par des gestes un peu comme ça.
Ouais.
Et puis, bon, nous, à notre niveau de démocratie, je pense qu'il y a ça à faire. En tout cas, d'essayer d'organiser quelque chose à notre niveau. Et après, de toute façon, ouais, va falloir aller à la bagarre, quoi.
Ça, moi, je pense qu'il faut faire un syndicat, le syndicat des fous. Le syndicat des...
Ah, c'est une bonne idée, ça, le syndicat
le
des
SF.
Fous. C'est une bonne idée.
Le SF. Ouais.
Bah, en tout cas, il faudrait que tous les fous s'unissent et viennent nous voir, hein, à
c'est
Démocratie.
Ça, ils disent, nous, on n'est pas
c'est
d'accord.
C'est qui, Démocratie?
Tu tapes Démocratie sur Instagram et tu as toutes les informations.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Nos lieux de rencontre, etc. Mais on a plus, on a besoin de plus de fous. Hein.
Ouais.
Donc tous les fous, venez nous voir. Tous les fous, venez nous voir. On a besoin de force. Donc
de,
voilà,
de, toi, tu soignes pas la société.
Plus on est de fous.
Parce qu'il faut quand même la soigner, la société,
ouais,
parce qu'elle va mal.
Ouais. Bien sûr. Après, il y a, comme on a dit tout à l'heure, il y a la question du capitalisme et de des diverses oppressions aussi qu'il faut que nous on lutte contre. Bien sûr. Mais ça, c'est des affaires qui vont prendre du temps, quoi. Mais je veux dire, on va là à notre échelle, à notre niveau, je pense pas que comme objectif, en tout cas là pour dire on va soigner la société, c'est un truc qui, enfin, moi déjà là, ça je vois pas par où commencer et c'est.
Bah déjà qu'on met les lumières sur la société et non plus sur les fous, déjà.
Ouais, ouais.
Hein, ça va un petit peu contrebalancer les
oui,
choses.
Bien sûr, c'est produire un contre-discours, quoi. Ouais, ouais, ça, tout à fait. Ouais.
C'est une façon de dire soigner la société.
Après, soigner la société, peut-être, ouais. On pourrait faire organiser des mouvements où on fait des câlins aux gens, ou je sais pas.
Des actions de soins collectives.
Ça existe déjà.
Ouais.
Ça existe.
Ouais, c'est nul, ça,
existe.
Les trucs des câlins. Non, mais
ouais. Non, non, des actions de cris comme. Pour exprimer, moi je trouve ça plus
agréable. On distribue des médicaments aux gens.
On dit dans à tout le monde de hurler dans la rue.
Ah, toi du Prozac, toi du Xanax, toi. Ouais.
Juste donner la possibilité aux gens de s'exprimer, à toute personne, même avant qu'elle ne soit folle ou qu'elle soit atteinte par quelque soit maladie. Donc on n'est plus dans un monde où, encore une fois, je parle beaucoup d'humanité, beaucoup d'empathie. C'est ce qui manque.
Bah, pour moi, de toute façon, comment on se soigne, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. C'est pouvoir faire ce qu'on veut par rapport à qui on est. Et c'est ça qui soigne.
Ouais.
Et après,
faut
savoir qui on est, etc.
Ouais,
donc ça suppose plein de trucs derrière. Mais à Démocratie, là, on s'est dit qu'on se soignait, on se faisait du bien et on se rétablissait avec Démocratie.
Je confirme, oui.
C'est
on
parce
se
qu'on
soigne.
On décidait ensemble de faire des trucs qu'on avait envie de faire, chacun avait envie de faire. Et on disait, allez, c'est parti, on le fait. Et c'est ça qui a fait qu'on se sentait mieux d'un coup. Il faut créer les conditions possibles pour l'ensemble des gens. Ouais. Quand les gens, plutôt que d'aller à l'usine ou faire des conneries de trading ou je sais pas quoi, enfin, il y aurait plein d'exemples de boulot où ça a aucun intérêt. Et ben c'est créer les conditions pour tout le monde que c'est comme ça qu'on soignerait les gens, quoi.
Il
faut même
fois,
soigner les oppresseurs.
Faut
que les psychiatres on les descende de leur piédestal et on leur mette une bonne tarte dans la gueule, ça leur fera du bien.
On les guillotine.
Ça sera les soigner parce qu'ils sont dans une posture d'oppresseurs, de gens qui enferment des gens, qui cachetonnent des gens. Mais moi, j'aimerais pas être à leur place en vrai. Ils sont malheureux, ces gens-là. Et tellement ils sont malheureux, ils font des trucs.
Ils se vengent sur les gens.
Ben c'est ça, ils sont aigris. Il faut soigner les oppresseurs et les opprimés. Bon, les opprimés d'abord, les oppresseurs.
Mais
aussi.
C'est donc ça les termes de la lutte en tant que fou, c'est de dire qu'on va soigner tout.
On va soigner tout le monde.
Les gens, la société, tout.
On n'est pas si revanchards que ça. Finalement.
Non,
non. Ben non, puisqu'on veut soigner tout le monde, on est des gentils.
Bon, pas de tarte dans la gueule. Je retire ce mot.
Non, ouais.
C'est un peu
non.
fort.
Puis on est non-violent parce qu'il y a cette violence comme ça dans le monde.
Ah bah oui, pour avoir été violenté, donc on cherche justement à faire autrement qu'avec la violence.
Il y en a une ou deux, je veux bien quand même leur mettre une tarte dans
c'est
la gueule.
C'est vrai
ouais. Oh. Je donnerai les noms en fin
moi aussi.
Non, moi j'ai pas cette le vengeance jeu. Comme ça.
Bouffonne.
Moi, je suis vraiment adepte de la non-violence et je vois pas l'intérêt de d'utiliser.
Vais aider.
D'utiliser les mêmes armes qui ont été utilisées contre nous, les retourner. Je vois pas l'intérêt.
C'est pas mal ça, oui. Ça me parle, oui.
Elle a raison.
Ouais. Ouf. Mais faut qu'on trouve nos armes à nous qui. Ouais. Et si c'est être bisounours, ben tant pis, on sera bisounours. Hein.
Moi, je suis tout à fait d'accord. On envoie des arcs-en-ciel, comme les bisounours.
Voilà.
Arc-en-ciel.
Voilà.
De l'amour, du love.
Vivement un lieu où on pourra se trouver avec les bisounours et avec plein d'amour.
Bah, on ouvre un café.
On achète des costumes et on prend du LSD et là c'est parti.
Lucy in the sky with diamond.
Oui, on fait carrément des tests de nouveaux médicaments ici.
On a tout, on peut monter un petit labo pour fabriquer notre LSD tranquillou. Hein.
Merci les portes du midi.
Merci.
Elle est partie, je n'ai cesse pas. C'est bon. On peut faire le LSD.
Voilà. En fait, c'est ça qui permet de sortir de sa folie en même temps. De pouvoir déconner, de pouvoir se.
Mais c'est rire. Hein.
Ouais, exactement.
Moi, j'ai beaucoup utilisé le rire. Je pense que c'est le truc qui relie les gens en fait.
Ah, ouais.
Si tu ris, t'es pareil à l'autre et tu déstresses tout de suite. Le rire, c'est fait pour ça, quoi.
Ah, je confirme. Tu vas beaucoup mieux.
Ben oui. On va obliger les gens à rire.
Ouais.
Ça devrait être une thérapie prescrite. Ouais.
Ben c'est une thérapie, la thérapie.
Non, mais elle n'est pas prescrite, elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale.
Ben,
il n'y a pas de lieu. Pourquoi on n'irait pas dans un lieu qui.
Ben, si, il y a des lieux qui font de la thérapie par le rire. Ce n'est pas remboursé, mais comme toutes les thérapies.
Ben voilà,
toutes les thérapies ne sont pas remboursées.
Non, mais après, c'est comme la posture philosophique, quoi. C'est un truc, il faut que les gens fassent spontanément. On ne va pas faire des ateliers où les gens, on va rire. C'est horrible, ça. Moi, je ne sais pas, perso.
Pourquoi pas ?
Hein ?
Pourquoi pas ?
Pourquoi ? Mais pourquoi, surtout ? Pourquoi tu vas aller faire des trucs où les gens...
On peut faire des spectacles. Spectacles démocratiques.
Bon, mais ce sera sans moi.
Présente ton projet.
Déjà, apprendre aux gens à pouvoir rigoler et à rire de tout et de rien. Voilà, quoi. Rien n'est tabou, il faut rire.
Le tabac, c'est tabou. Tout ça boue. La folie, c'est tabou. Non, on en viendra à tout ça boue.
Il faut qu'on rigole.
Moi, c'est ma thérapie. Donc, je voudrais des lieux qui me fassent rire.
Ok.
Voilà.
Très bien. Bah, on va.
Il y a des cirques, il y a des clowns.
Un café du rire.
Ouais.
Il faut que tout lieu soit un endroit où on peut rigoler.
Genre la CAF.
Par exemple.
Hey, bonjour madame.
J'aimerais pouvoir aller au MDPH à la maison.
MDPH, ah ouais, ils sont drôles à MDPH.
Et voilà, et rigoler. Moi, et leur dire bonjour. Je voudrais toucher un peu plus pour vivre un peu plus, pour m'éclater un peu plus.
Là, ah, je suis d'accord.
Voilà.
Avec toi,
là, tu vas les faire rire.
970 euros, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, payer un loyer à 1000 euros, je vois pas, mais bon, il me reste plus grand chose pour rigoler.
Envoyer des sous à Fatia.
Fatia, impératrice première.
Voilà.
Elle vous enverra
On fait une cagnotte litchi.
Bah, il y a déjà une cagnotte sur Démocratie.
Ouais.
Ah oui.
Donc envoyez.
Vous pouvez payer votre adhésion sur Eloasso.
Voilà. Ça me viendra, ne vous inquiétez pas. Hein.
Ça paye directement le loyer de Fatia.
Ouais, je vais me retrouver en tôle avec vos conneries.
Bon, on t'enverra à toi la cagnotte. Après. Ça va tourner.
On rigolera mieux qu'à l'hôpital psychiatrique. Hein.
Moi, je me suis bien marrée à l'hôpital psychiatrique.
Mais arrête, tu m'as envoyé.
J'ai fait un virage maniaque, ça a été de toute beauté. Je me suis bien marrée.
C'est parce qu'elle a fait un virage maniaque. C'est pas le fait d'être en psychiatrie. Hein.
Mais je me suis vraiment bien marrée.
Mais tout le monde ne fait pas du virage maniaque. Donc, vous n'allez pas tous rigoler hein, là-bas. Bon, bah, je pense qu'on
on conclut.
On conclut.
La psy du futur.
La psy du futur.
Ouais.
Le thème, c'est la psy diffusion.
Alors, dis-moi, Antoine, comment tu vois ça?
Antoine. Alors, dis-moi, Antoine. comment que tu vois la
psy diffusion? Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu le vois? Comme dans l'amour et dans le prince.
Alors, la psy du futur, elle sera émancipatrice ou elle ne sera pas. Voilà, et qu'il va falloir par contre en parallèle travailler la société pour que. Parce que j'ai un pote à qui je racontais ça, il me disait oui, mais de toute façon, dans chaque moment de la société, quand la société est réactionnaire, les institutions de soins, entre autres, elles sont réactionnaires aussi, quoi. Donc faut quand même qu'on accompagne un mouvement émancipateur dans la société et qu'on travaille à des institutions psy qui soient émancipatrices et libératoires et libérateurs, libératrices.
Libératoires, libérateurs.
Libérons
le rire. Ouais, ça va être chouette.
Ça va bien, on voudra tous aller en psy après. Pour pas aller bosser.
Exactement. Ou tous bosser en psy.
Ah ouais, puisque de toute façon, ce sera collégial, on pourra tous bosser aux soins.
Ben oui.
Il n'y aura plus de malades, plus de soignants, il n'y aura que des soignés, soignants.
Il n'y aura que des gens qui vont mieux.
Ouais. Oh.
Quelle société.
Mais en tout cas, une psychiatrie, effectivement, qui nous prenne pour des humains et pas pour des diagnostics. Mmh. Parce que là, on est un peu pris comme. On est traité comme un diagnostic. Et on
si
est
tu
pas
as le diagnostic. Ouais, parce si que des fois, tu ne l'as pas. Donc, tu n'es même pas traité comme un diagnostic.
Il serait peut-être temps que tu l'aies.
Donc, voilà.
Bon, ben.
On a fini là.
On a fini.
Merci aux portes de midi.
Merci aux. Ouais.
Oui, merci aux.
Et au prochain podcast aux portes du midi aussi.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'était le podcast de Démocratie sur Radio Libertaire, donc à notre émission L'Entonnoir. Critique de la psychiatrie. Et c'était une émission enregistrée en mai 2024. Un système de l'entonnoir. On vous dit à la semaine prochaine.
Prozac, tu as toujours avachi. Chavire en moindre ressac sur le dos. Le cœur gros de vapeur, de vertige. Je suis préoccupé. Je tremble. Toute la journée, sans phallotite noire. Oui, oui, oui. Et alors, admission d'urgence. Oui, oui, oui. Chambre 7. De solide, de marin, des coulants, des bizarres, des précaires, je maîtrise, j'en suis plein, comme un fleuve profond, une mer tranquille, je garde mon calme, je reste impassible, Valium, Tranxène, Lithium, Prozac, tu es toujours abruti, chargé comme une outre, comme une cale de bateau, rongé par les flots, caravelle, en dérive, je suis préoccupé, je tremble. Je crois que ça me revient, c'est ton déni de réalité qui creuse entre nous une tranchée nette, une bande longue et infranchissable, comme une vague monstre et scélérate. C'est comme ça une machine à échec qui tourne à plein régime et finit à sec, complètement à sec, carrément à HS. Valium, Tranxène, Lithium, Prozac, tu es toujours engourdi après tes séjours au fond de curieux ruisseaux. Fitzcarraldo sans l'heure ni Molly. Je prends.